Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Le débat est en train de s'installer, mais alors petit problème technique. Dominique, je préférerais que tu te mettes sur l'autre micro, à l'autre bout. Merci. Oui, c'est-à-dire que mes micros ont un petit peu souffert de l'humidité cette nuit. Eh bien, Dominique, je te donne la parole.
Oui, eh bien, bonjour pour ce premier débat qui démarre un petit peu en retard, vu l'affluence à la fête du livre, les conditions de circulation pour aborder le village ne sont plus ce qu'elles étaient dans le temps. Par contre, j'ai cru en comprendre qu'il y avait un temps humide en Picardie, mais c'est normal. Voilà, alors aujourd'hui, pour le premier débat, nous accueillons Arnaud...
Zweig.
Voilà, voilà. C'est mieux quand c'est dit par, par le détenteur du nom, qui va nous parler d'une lutte, écologiste, une lutte menée par un village dont Arnaud est le maire, à Courmel, dans l'Aisne, contre l'implantation d'une usine très polluante. Il va nous faire le point de la situation et d'ores et déjà, j'annonce que... le livre qu'il a coécrit avec David Brégé, Le village contre la multinationale, est disponible sur la fête du livre, soit directement auprès d'Arnaud, soit sur nos tables de presse, la table de presse du groupe Kropotkine, qui est la première en entrant dans le salon du livre anarchiste. Alors Arnaud, merci d'être arrivé jusqu'à nous. Et voilà, Rocoul, ici tout le monde connaît, mais là on est sur Radio Libertaire qui est aimée au niveau international. Donc qu'est-ce que c'est que cette usine Rocoul et qu'est-ce que c'est que cette lutte? Comment ça a commencé? Alors tu essaies de faire relativement court pour qu'on puisse après débattre.
Bien sûr. Donc je vais la faire brève. Donc je suis Arnaud Zweig, maire d'une commune de 1800 habitants près de Soissons. Je suis jeune élu depuis 2020, c'est mon premier mandat. Et dès mon arrivée aux fonctions, j'ai eu à instruire un dossier d'urbanisme pour la création d'une usine de laine de roche, l'usine Rocoul. Dossier que je ne connaissais pas particulièrement. Et j'ai commencé à découvrir qu'il fallait une autorisation d'exploiter. Et dans l'autorisation d'exploiter, donc, il était fait référence à tous les produits qui allaient être émis dans l'atmosphère. Il y avait aussi la plaquette qui présentait le nombre d'emplois. Donc on était sur un ratio de 3 emplois à l'hectare, ce qui semble dérisoire, alors qu'actuellement sur la zone, on est à 30 emplois à l'hectare. Et surtout, des produits d'une dangerosité extrême qui allaient être répandus dans l'atmosphère. À commencer par ce qu'on commence à voir maintenant poindre, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai la chance d'avoir dans mon entourage une sœur, un beau-frère et une ex-femme, on va dire, professionnelle de santé, qui m'ont tout de suite alerté sur la dangerosité de ces produits-là. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est, on ouvre la boîte de Pandore, là on commence seulement à découvrir les dangers sur la santé. Tous les dyspraxies, dyslexie, dysorthographie, autisme et autres pathologies. Donc, renseignements pris, tous ces perturbateurs endocriniens, ce ne sont pas des quantités émises, mais c'est surtout des durées d'exposition. Donc on découvre aussi au passage que le sens des vents dominants emmène les fumées vers la cuvette et le bassin de population soissonné, 60 000 habitants. Je rappelle au passage que j'ai quand même la salubrité publique sous ma responsabilité. Et donc, fort de tous ces éléments-là, et par rapport à un dossier d'urbanisme qui était vraiment approximatif, je refuse de délivrer le permis de construire. À partir de là débute un bras de fer, donc comme le titre l'indique, le village contre la multinationale. À maintes reprises, on m'a dit le pot de terre contre le pot de fer. Qu'à cela ne tienne, je suis homme de conviction, j'aime aller jusqu'au bout des choses. Et j'ai commencé à rencontrer aussi les premiers opposants qui m'ont expliqué leurs motivations. Et donc on est parti, on va dire, en lutte acharnée, avec des gens déterminés, plein d'arguments entendables, vers cette lutte-là. Donc refusant le permis de construire, on m'a assigné devant le tribunal administratif. Au tribunal administratif, j'ai été débouté, on m'a dit que mon refus était illégal, mais j'ai décidé de faire appel. Or là, récemment, et c'est quand même inédit un scénario assez inédit. J'ai obtenu gain de cause en cour d'appel sur deux points, c'est-à-dire que mon refus de délivrer le permis de construire était légitime, puisque là, il y a des dépassements de hauteur qui sont vraiment énormes. Et surtout, argument qui a été développé par l'industriel, comme je suis, j'habite pas très loin, on me disait que j'ai servi mes intérêts, donc que j'ai manqué d'impartialité dans l'instruction du dossier. Donc, quelque part, ça jetait l'opprobre sur ma morale, sur mon éthique, sur mes motivations, et de ça, j'en ai été blanchi par la cour d'appel de Douai. Donc, qu'à cela ne tienne, cet industriel-là s'était targué d'avoir, on va dire, étudié 19 autres sites. Force est de constater qu'il s'acharne sur ce projet-là parce qu'il n'y a pas de, de solution alternative. Donc, voilà où on en est. Donc, maintenant, il se pourvoit devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir gain de cause. Et donc, la lutte continue. Dans cette optique, il y aura une manifestation samedi prochain dans les rues de Soissons. C'est des manifestations bon enfant où tout le monde peut échanger avec tout le monde. C'est transpartisan. Moi, j'ai eu l'occasion, à travers ce combat-là, de rencontrer des belles personnes de tout horizon. Quand on est, je sais ce que je dis, les combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas. Et surtout, autant seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment la philosophie de ce combat. C'est là aussi que j'ai rencontré Dominique, ses amis, d'autres forces vives, de personnes altruistes, tournées vers les autres et soucieux du bien collectif.
Voilà. Bon, merci pour bon, c'est bref, hein, ce fut une lutte conséquente au niveau juridique qui dure. Vous savez, le pouvoir en place utilise tous les arguments pour fatiguer les gens qui sont contre. Là, bon, on est reparti pour des délais administratifs juridiques.
À minima 18 mois.
Là. Oui, 18 à minima
mois 18 avant
mois.
Qu'une décision soit prise.
Voilà. Bon, alors, ça nous laisse un peu le temps de préparer la suite. Donc, tu annonces là tout de suite qu'il y aura une manifestation le 5 octobre. Il faut absolument y aller. C'est pas quand on aura une usine Eurocool. Rassurez-vous, on ne l'aura jamais. On n'est pas comme ça, nous, on ne laisse pas faire des aberrations. Mais il faut se mobiliser dès maintenant, il faut montrer que, voilà, on n'en veut pas au recul, c'est une technologie polluante. Et il y a d'ailleurs d'autres usines au recul.
Oui, alors je rebondis sur ce que tu disais, Dominique, et je vais abonder dans ton sens. J'ai eu des contacts avec les gens dans le Massif central, une ville qui s'appelle Saint-Éloi-les-Mines, près de Clermont-Ferrand, où recul est installé depuis les années 80. Et si dans les années 80, on les a vus arriver comme des libérateurs parce que les mines fermaient et qu'il fallait absolument avoir du travail, à l'époque, déjà, un vent d'opposition soufflait sur ce projet-là. Et donc, j'ai eu contact avec des gens qui m'ont dit, moi, à l'époque, j'étais jeune adulte, j'avais 20 ans, et en fait, on ne s'est pas mobilisé comme on aurait dû, l'usine est arrivée. Et s'il y a quelque chose que je regrette dans ma vie par-dessus tout, c'est à l'époque de ne pas m'être mobilisé davantage pour éviter ce genre de désagrément, parce que les gens subissent ça. Saint-Éloi, c'est situé dans une cuvette. Alors, j'ai eu le tort de faire une comparaison un peu malheureuse avec une ville qui avait connu un désastre nucléaire. Mais il est vrai que 40 ans de présence à Saint-Éloi-les-Mines ne m'ont pas convaincu quant au fait que ça puisse amener la prospérité, notamment du fait de beaucoup de maisons abandonnées, d'une population laborieuse, de gens pris en otage, dont les maisons sont invendables et qui font preuve d'une forme de fatalisme en disant « ben voilà, c'est la vie, elle est comme ça, on continue à subir parce qu'on a besoin de manger à la fin du mois ».
Ouais.
Donc nous, on a la chance, excuse-moi Dominique, je termine, donc
non.
Nous, on a la chance pour l'instant d'avoir fait en sorte que la première pierre ne soit pas posée. Tout le monde sait pertinemment qu'une fois que la première pierre sera posée, les autorisations d'exploiter, les autorisations diverses et variées, les dérogations sur les dépassements, comme c'est le cas à Saint-Éloi, sur les normes de pollution, sur les consommations d'eau qui sont astronomiques. Hein, et Dieu sait que là, c'est quand même la confiscation d'un bien universel. Hein, l'eau appartient à tout le monde. L'air également. Il sera trop tard. Donc, je suis désolé de le dire, c'est maintenant ou jamais. Voilà, il faut se rassembler et c'est maintenant qu'on doit y aller.
Oui, de toute façon, bon, on sent bien que aujourd'hui, cette technologie est déjà une technologie du passé. Disons que on a des alternatives,
oui.
Pour produire, pour s'isoler, pour
voilà.
Donc on voit bien que qu'est-ce qui est sous-tendu là-dessous, c'est le profit. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes de faire des choses, de produire pour satisfaire les besoins des gens, et puis produire, quitte à produire des produits toxiques pour gagner de l'argent. Quoi. On est bien dans une société capitaliste, et là on voit que, que l'administration... Hein, qui est, on est dans une période où tout le monde se bat pour, comment on appelle ça, contre le réchauffement
climatique
pour inverser les décisions qui ont été prises jadis. Et on continue absolument politiquement à se lancer dans des aventures qui sont dépassées. Le nucléaire, les industries polluantes, alors que manifestement, tout un travail a été fait pour montrer qu'on peut produire des choses qui sont pas toxiques et qui sont moins chères,
plus durables,
durables. Plus durable, etc. Et du coup, on sent bien que ce combat-là, c'est un combat de fond. On voit bien quand le préfet se mobilise pour casser tout le... Parce que ça a été très loin pour ta commune, quand même. Hein. Raconte un peu.
Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, on a un président qui s'est levé un matin en disant, on va réindustrialiser la France parce qu'on s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'on n'avait plus de Doliprane. Bon, moi, jusqu'ici, tout va bien. On est en train de nous dire, il faut produire de l'isolant parce qu'on a retiré, je crois, ces 500 000 logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Et aujourd'hui, on a un problème de mal-logement. Donc finalement, on a là la possibilité d'avoir un produit pas cher, avec une ressource, donc c'est de la laine, c'est de la pierre de lave du basalte, donc une ressource censée être inépuisable, et on vous dresse un bilan carbone en vous disant, on va émettre beaucoup de pollution lors de la fabrication du produit, mais on va gagner énormément par la suite en dépenses énergétiques. Alors il faut quand même savoir que la laine de roche, c'est un matériau, n'est pas doté d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle retiendra le chaud l'hiver, mais elle retiendra aussi le chaud l'été. Et moi, il m'a été donné l'occasion de me rendre dans des grands ensembles en région parisienne, où là, l'asphalte et le bitume sont rois, en période de canicule. Et là, c'est insupportable, on ne peut pas vivre dans ces appartements surchauffés. Une fois de plus, c'est les moins favorisés qui subissent. Donc... qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On actionne des climatisations, mais donc là encore le bilan carbone épouvantable, mais ça on ne calcule pas ça, on ne met pas ça dans l'équation. Et sauf à ce qu'on me démente, j'ai plutôt entendu parler d'un réchauffement global que de l'arrivée d'un petit âge glaciaire. Donc tout dans ce dossier-là n'est que élément de langage, malhonnêteté intellectuelle. On me dit Recoule, c'est de l'emploi. Tu es contre Recoule, tu es contre l'emploi. Moi je vais reprendre un exemple, si on va dans le même sens. On s'évertue à faire de la croissance. Plus on fait de la croissance, plus il y a de pauvres. Peut-être que si on faisait de la décroissance, on ferait décroître le nombre de pauvres. Voilà, c'est le même type de raisonnement. Donc, on peut toujours être plus... Voilà, Dominique, tu rigoles, mais en fait, c'en est risible, parce que autant on peut dire des fois les gens séparément, il n'y a pas des fois de signe d'intelligence dans les remarques, autant collectivement, je suis persuadé qu'il y a une bonne intelligence collective, une bonne conscience. Moi, dans toutes ces procédures-là, qui sont vraiment très coûteuses, je peux donner l'ordre, de toute façon, c'est public, on en est aujourd'hui allègrement à 150 000 euros d'honoraires d'avocat, on est très bien défendu. C'est ce qui nous a permis de tenir dans la durée. Et moi, étant le garant des bonnes dépenses de ma commune, je dois gérer ça en bon père de famille. J'ai fait un exercice qui est on ne peut plus démocratique, j'ai fait une consultation citoyenne. Chacun a pu venir voter en son âme et conscience, donner son point de vue. Voilà, il y a eu 430 suffrages exprimés sur 1200 inscrits, je crois, de mémoire. Et le non à l'usine est ressorti à 96,6%. Ce qui veut dire que les gens... Dans leur immense majorité, on approuve mes décisions de faire valoir nos droits. Je suis aussi le garant du bon droit, des règles d'urbanisme. Donc tout le monde doit être soumis, particulier comme industriel, aux mêmes règles d'urbanisme. Voilà, c'est un mode d'emploi. Soit on est dans le cadre de la loi, soit on ne l'est pas. Or, force est de constater, la décision de justice abonde dans ce sens, Recoule n'est pas dans le cadre de la loi.
Voilà. Et bon, pour rebondir un peu sur ce n'est pas dans le cadre de la loi, moi j'aimerais bien que tu parles un petit peu des tracasseries, parce que par exemple là bon, tu nous donnes un chiffre,
150 000 euros
de frais de justice pour simplement faire valoir nos droits, et tu verras qu'un jour on te reprochera d'avoir investi autant d'argent au détriment d'autres activités.
Mais c'est déjà le cas, je vois où tu veux en venir. En fait, j'ai eu la malchance, hein, c'est un drame d'ailleurs, toutes mes condoléances à la famille de la victime, d'avoir découlé de boue meurtrière au mois de mai, donc de déplorer une victime sur ma commune. Et il m'a été dit, bon, je ne citerai pas là le nom de la personne qui me l'a dit, parce que voilà, au lieu de diriger de l'argent vers des frais de justice pour s'opposer à un projet de réindustrialisation, j'aurais dû mettre tout en œuvre pour faire des équipements pour éviter des coulées de boue. Or, on est dans un phénomène qui est complètement anormal, qui n'était pas prévisible. Et utiliser ce décès-là pour essayer de me déstabiliser, j'ai trouvé quand même le coût très bas. Et quelque part, ça m'a conforté dans ma façon de continuer à m'opposer, parce que quand on tient ce genre d'argument, c'est qu'on est fébrile quant à faire entendre son point de vue. Donc ça n'a fait que renforcer mes convictions en disant voilà, je suis dans le bon droit, on est dans un état de droit. Alors n'en déplaise, hein, c'est vrai que des fois c'est difficile à entendre par le commun des mortels, mais je reste persuadé, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Et voilà, et c'était difficile à dire quand j'ai été débouté la première fois, je vois des mines sceptiques dans l'Assemblée. Mais le résultat est là, la cour d'appel a tranché et a abondé dans le sens du droit.
Oui, c'est une bonne nouvelle que quelquefois, voilà, la justice fait respecter le droit.
C'est bon, ça.
Ce que nous, en tant qu'opposants, anarchistes en plus, donc qui sommes par définition contre l'État, contre la loi de l'État, c'est évident que les trois quarts du temps, voire la répression du mouvement populaire des Gilets jaunes, voir comment on mate les manifestations qui sont si un droit constitutionnel pour les gens qui ne veulent pas d'un projet de retraite qui les fera travailler beaucoup plus en gagnant moins encore. Mm-hmm. Donc effectivement, pour nous, c'est une justice de classe. Il n'empêche que par certains, il y a certains moments, des juges arrivent à faire
valoir le droit en toute objectivité.
D'autant plus qu'il y a des on les prend souvent aussi pour des cons, pour dire les choses comme et ça leur plaît pas forcément tout le temps. Faire croire que la pollution engendrée par une activité comme celle de Roucoul ne pose aucun problème ou ne posera aucun problème à la population, alors qu'on démontre le contraire, eux, ils sont quand même dans une structure où c'est argument contre argument. Et leur faire dire des choses aberrantes, ça devient quasiment vexant pour un tas de magistrats qui... on en est là et on nous impose des choses qu'on ne veut pas, mais la réaction de la population est quand même... pas mal, je trouve. Hein. La cité au niveau du village...
Elle est sans ambiguïté. Alors, on nous dit, faites confiance au service de l'État, faites confiance à l'ARS. Alors, moi, j'ai rien contre l'ARS, je suis assez pragmatique. Je crois me souvenir que c'est l'ARS qui a traité le problème du chlordécone aux Antilles. Mmh. Et puis, bizarrement, c'est en Guadeloupe qu'il y a eu le plus de réticence à la vaccination contre le Covid. Je pense aussi à la gestion des masques, c'est-à-dire qu'au départ de la pandémie, si on peut appeler ça une pandémie... on n'avait pas besoin de masques parce qu'on n'en avait pas. Puis une fois qu'on en a eu, on les a gardés 3 ans. Donc, c'est ce discours qui est plus audible. C'est-à-dire que les gens, on a le bon sens. Alors moi, je suis paysan à côté. Alors on va dire le bon sens paysan. Les choses, elles sont blanches ou elles sont noires, mais elles changent pas de couleur au fil du temps ou de l'interlocuteur. Donc, moi, ces histoires de l'ARS dont on n'a pris aucune, on n'a pas entré en considération le sens des vents dominants. On disait tout à l'heure, là, les perturbateurs endocriniens, on n'en est qu'au début des études sur l'impact sur la santé. Je crois me souvenir qu'au niveau du département, il y a une délibération qui a été prise justement pour faire la chasse aux perturbateurs endocriniens. Donc moi, j'ai des enfants à la cantine, on me dit, monsieur le maire, il faut faire le maximum pour réduire les perturbateurs endocriniens. Mais à côté de ça, le même département donne un blanc-seing à l'arrivée de cette usine-là, allant jusque la défalquer de la part d'impôts fonciers de la part départementale pendant une durée au-delà du raisonnable. Donc, quand dans un même temps, on me dit, le département de l'Aisne connaît des difficultés financières financière, mais on ne peut plus entretenir les routes parce qu'il y a trop de social à faire dans l'Aisne. Voilà. Moi, ce discours un peu simpliste, quelque part, des fois, ça me donne un peu mal à la tête et je n'aime pas avoir mal à la tête.
Non, mais c'est vrai que bon, nous, on a connu ça. Il y a Roucoul, mais il y a aussi Couvron. Hein. Je veux dire, on donne quasiment un ancien, c'est 400 hectares, pour une somme dérisoire à un particulier, pour faire quoi ? Pour faire le plus grand circuit de course automobile d'Europe, alors que on est en train de nous bassiner pour dire qu'il faut modifier les normes, faut prendre des voitures électriques, ce qui n'est pas forcément une solution plus viable que le pétrole, parce que fabriquer du nucléaire alors qu'on sait même pas quoi faire des déchets. Bon, on voit bien qu'on est dans une société où les choses se font pour le profit immédiat, et pour le reste, et ben les gens se débrouilleront ou, comme ils disent, on fait confiance à la science trouver une solution pour résoudre les conneries qui ont été faites avant. Mais bon, il ne faut pas se tromper. Par exemple, l'amiante qui est aujourd'hui un scandale et qui coûte des vies humaines en nombre, au moment où les autorisations de produire de l'amiante comme isolant, il y avait des alternatives. Hein, qui ont été, on a les preuves, on a les dépôts de comment on appelle ça, les dépôts de brevets pour fabriquer autrement et autre chose. On avait tout pour éviter ce scandale-là. Mais bon, quand il y a du profit à faire, les capitalistes choisissent de faire, y compris n'importe quoi, parce que de toute façon, ils gagneront toujours de l'argent. Surtout pour fabriquer l'amiante, et deux, pour désamianter après. Donc,
Alors, pour rebondir un petit peu, c'est vrai que c'est l'argent roi, parce qu'il faut quand même savoir que Roucoul, qui est un groupe international, contrairement à d'autres industriels, a décidé de rester implanté en Russie, a même produit de l'isolant pour les frégates russes. Donc, quelque part, il est industriel pour soutenir une économie de guerre. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un problème d'éthique. Hein, quand on nous dit, voilà, Roucoul est durable, la laine de roche est recyclable à l'infini. Alors, tout ça, c'est des éléments de langage. Il faut savoir que le pourcentage de laine de roche qui est recyclée doit être de 0,05%. La plupart de l'utilisation, hormis les usages pour les collectivités, c'est le bricoleur du dimanche qui isole sa maison avec de la laine de roche parce que c'est abordable. Et puis, qui, quand il démonte tout ça, ben, emmène ça à la déchetterie et puis ça finit enfoui. Donc une grande partie de tout ça finit en déchets ultimes, dans des décharges contrôlées soit, mais en déchets ultimes. Et c'est surtout, alors si on peut contester la toxicité du basalte, c'est le produit liant qui va faire la fibre, qui lui est d'une extrême toxicité. Et donc, on vit avec ça au-dessus de nos têtes. Donc, pour l'instant, par des jeux de passe-passe, on nous dit, ben voilà, il y a des dérogations, c'est toujours un produit autorisé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec la dangerosité et puis le chemin qu'a connu l'amiante.
Mais bon, sans compter que, par exemple, une autre problématique actuelle, c'est la gestion de l'eau. De l'eau potable, et c'est une usine qui va pomper énormément.
Voilà, alors là c'est pareil. Alors bon, on y a été extrêmement sensible l'hiver d'il y a 2 ans, parce que c'était un oxymore. On était en sécheresse hivernale dans l'Aisne. Donc nous, c'était des mots qu'on n'était pas censé pouvoir se voir associés. Donc là, il faut savoir quand même que Roucoul, c'est 20 mètres cubes d'eau à l'heure. Donc 20 mètres cubes d'eau à l'heure, c'est une consommation énorme d'eau qui viendra principalement de la nappe phréatique. C'est aussi une énorme consommation d'électricité. Alors je me rappelle des slogans publicitaires quand on s'est retrouvé avec des réacteurs fermés, on était en pénurie d'électricité. Alors là encore, tout ça c'est pour faire culpabiliser les gens. Aujourd'hui on vous dit voilà, c'est le moteur à explosion, le diesel qui pollue, c'est de votre faute si ça pollue, donc on va mettre des taxes. Donc nous, en payant des taxes, on pense qu'on s'achète une bonne conscience, mais en fait on n'a pas de solution alternative. On retrouve exactement le même problème là, c'est-à-dire qu'on nous disait voilà, éteignez vos lumières, différez, faites en sorte soyez vertueux avec l'électricité. Roucoul, le four électrique de la ligne de production, c'est l'équivalent de 4% de la production d'un réacteur nucléaire à eux seuls. Donc là encore, de l'énergie pour du profit. Bon, la problématique n'est plus la même, mais on sait que ça peut arriver. Après, ils nous disent, voilà, on va vivre pour moitié avec l'eau qu'on va récupérer sur les toits. Or, aujourd'hui, moi, en tant qu'agriculteur, j'observe, en fait, si on n'est pas dans un réchauffement global, on est tout au moins dans un bouleversement global. C'est-à-dire qu'on n'a plus le climat tempéré qu'on avait, c'est-à-dire on peut partir sur des périodes, et là, on l'a vécu donc, au printemps et à l'automne dernier, de la pluie incessante pendant des mois et des mois, suivie d'une période de sécheresse qui va produire l'étiage des rivières. Et là, ils n'auront d'autre alternative, ils ne fermeront pas l'usine, que de piocher dans la nappe. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'eau potable, hein, quand on sait que peut-être un habitant sur deux ou un sur trois, enfin, peut-être voire plus, sur Terre n'a plus accès à l'eau potable, c'est un bien précieux que nous, on ne rationne pas parce qu'il nous semble illimité, on n'a jamais été confronté. Mais là aussi, il faut savoir que l'eau potable, l'eau douce, devient une denrée rare et précieuse. Et il faut en faire bon usage.
Voilà, bon, on a eu quand même pas mal d'arguments pour faire le tour un peu et voir et ne pas comprendre l'aberration des décisions administratives qui continuent à soutenir des projets qui sont néfastes, pour tout le monde. Hein, oui. Je pense que c'est même néfaste pour l'emploi.
Bien sûr.
Parce que, bon, une usine polluante, tu parlais de l'exemple du village
de Saint-Éloi
Massif Central, les gens, ils ne vont pas rester, surtout pour ceux qui sont du coin, on connaît, Soissons, c'est une cuvette. Hein, et toute la pollution, elle ira là-bas. S'il y a une pollution de la nappe phréatique, ça ira là-bas. Voilà. Donc les gens, autre qu'ils ne pourront plus vendre leur maison, ils ne pourront jamais rester là-dedans. Hein, on sait que là où on a fabriqué de l'amiante, c'est des populations entières qui ont été intoxiquées. Donc il n'y a aucune raison... Hein, que sur le temps, il ne se passe pas la même chose à Soissons si on laisse faire. Bon, heureusement, moi je suis quand même assez esboï de voir le niveau de réflexion de la population locale. Ça m'a fait penser un peu au traité européen. Vous savez, ce traité qui a été refusé par référendum, par la Constitution française. Oui. Où c'était un texte tellement ardu, etc., qu'aux yeux des gens, on peut les embobiner, ils ne comprendront rien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mobilisation. Et il y a eu des groupes de traduction, des positions, des textes. Il y a eu un immense travail de fond qui a été réalisé par des milliers de gens et qui ont abouti à ce que l'ensemble de la population, une grande partie de la population, en tout cas la majorité de la population, disent « Ah non, 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 ça, dans ces conditions-là, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. On veut peut-être une Europe, mais pas celle-là, en tout cas. » Et refus de... Bon, après, je vous passe, hein, ça a été voté, on a changé le titre du texte, ça a été voté par les parlementaires, qui, normalement, représentent la population. Et c'est mon côté anti-électoral, là, vous voyez, je la reconnaissais, là. Voilà, en fait, les élus des chambres parlementaires sont les représentants, normalement, de la population. Une population qui a dit non par référendum. Voilà. Et bien comment ces gens-là qui sont détenteurs de représenter la population peuvent voter le même texte avec... Le système démocratique n'est pas si démocratique que
là,
ça.
J'ai un petit rictus amusé parce que je rebondis sur ce que tu m'as dit. En fait, si vous voulez, il est là le gros problème, c'est qu'en fait, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à l'époque avec un préfet qui malheureusement a eu des déboires avec... De par ses travers, qui a été démis de ses fonctions, enfin, je ne sais même pas s'il est encore préfet aujourd'hui, qui était dans l'Aisne à l'époque, et qui m'a dit, monsieur le maire, moi je vais donner l'autorisation d'exploiter parce que c'était un bon projet, c'est un projet industriel. Donc, vous devez convaincre votre population que c'est un bon projet. Vous avez un rôle pédagogique. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le préfet, sauf votre respect, je vais être un très mauvais pédagogue parce que moi, le premier, je n'y crois pas à ce projet-là. Il m'a dit, ça fait rien, je vais donner l'autorisation. Je lui ai dit, moi, ça fait rien, je vais refuser le permis de construire. Ouais. Voilà les derniers mots qu'on a échangés et en me disant, mais de toute façon, le projet se fera et moi, d'ici ce temps-là, je ne serai plus dans l'Aisne, je serai reparti sur Paris. Donc, effectivement, il est reparti sur Paris, mais j'ai plus de ses nouvelles depuis un petit moment, je ne sais pas ce qui est devenu ce brave homme. Donc voilà, je lui disais aussi, je lui dis voilà, alors moi j'ai peut-être rien compris, hein, voilà, je suis qu'un paysan, hein, voilà. J'ai cru comprendre un moment que le fait d'être élu en 2020, j'étais là, pas pour décider pour ma population, mais pour porter haut et fort ses attentes. Et en fait, je pense que c'est là que ça dérègle. En fait, ma fonction, ce serait je sers mes intérêts, j'envisage la réélection, et puis 6 mois avant les élections, je vais faire des promesses aux gens, promesses que je ne tiendrai pas. Moi, j'ai 5 enfants, il y a des choses qu'on leur apprend à l'école, hein, voilà, mais on ne délègue pas tout à l'école. Il y a une partie, ça doit être fait par les parents, c'est des valeurs qu'on véhicule. Hein, voilà, moi, je suis petit-fils de déporté, résistant. Et en fait, quand on a des convictions, on porte ses convictions et on va jusqu'au bout de ses convictions. On se bat pour un idéal. Et mes enfants me l'ont bien rendu. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a eu des manifestations, ils étaient à mes côtés en me disant « Papa, t'es un gars bien. T'es du bon côté et nous, on sera toujours là avec toi. » Et ce message-là, cette éducation-là, elle n'a pas de prix. Il faut aller au bout des choses. Il faut croire en certaines valeurs. Et c'est en moi en ça, je ne sais pas, alors je l'appelle de tous mes voeux, je pense que de toute façon on va y arriver, on gagnera le combat, mais quand bien même on perdrait le combat, une chose est sûre, j'ai réussi à inculquer ces valeurs-là à mes enfants et ça c'est inestimable, et d'autre part j'ai réussi aussi un exercice assez périlleux, c'est de faire défiler côte à côte dans une manifestation des gens qui au demeurant n'ont rien à voir ensemble, qui peut-être passent leur journée à s'imaginer que l'autre est l'ennemi, et à ce titre-là je vais terminer quand même par une anecdote parce que c'est un sujet grave mais il faut des fois savoir un petit peu plaisanter, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont dit non on ne peut pas défiler à côté de ces gens-là, vous vous rendez compte, on est instrumentalisé, alors je donnerai pas de nom, je donnerai pas de parti ni quoi que ce soit, on ne peut pas, c'est impensable. J'ai dit, écoutez, bon, par contre, vous, on sait, vous êtes apolitique et tout ça, on est là pour vous, mais vous comprenez, c'est scandaleux. J'ai dit, écoutez, ok, j'entends ce que vous me dites, vous avez le droit d'être opposés les uns aux autres, je n'ai pas à choisir ni les uns ni les autres, mais une chose est sûre, le temps d'une après-midi, faites abstraction de vos différences, de vos querelles, de vos combats, de tout ça, et dites-vous que si l'usine arrive, bah même ceux qui sont en face de vous, que vous n'aimez pas, qui vont vous instrumentaliser, on va tous respirer le même air pollué. Donc, le temps d'une après-midi, allez, faisons la trêve et défilons. Et on y est arrivé. Tout le monde a défilé dans une ambiance bien sympathique. À plusieurs reprises, tous les services de l'État ont misé sur une chose, le fait que nos manifestations dégénèrent pour nous faire passer pour un ramassis de voyous, de je ne sais quoi d'ailleurs.
Il faut dire que vous accueillez aussi des anarchistes dans vos manifestants.
Mais tout le monde est bienvenu, Dominique. C'est transpartisan et c'est ce que je te dis, l'air que tu respires, hein, et voilà, mais j'ai eu l'occasion de te le dire, voilà, il sera le même que pour des gens qui ont une vue un petit peu plus à droite, plus rigide, enfin, ouais, plus psychorigide, je me permets de faire un peu de jugement, plus psychorigide. Donc voilà, on a réussi cet exercice-là. Et la force aussi, c'est de dire qu'on rassemble des gens d'horizons tellement différents qu'on a tous nos repères, nos façons de penser. Et chaque fois qu'on a été confronté à un problème, en mettant notre intelligence collective, je pense que là, autour de la table, on a été peut-être même plus performant que l'intelligence artificielle, parce qu'en fonction des sensibilités, chacun a porté sa solution en fonction de la façon dont il était programmé. Et on a toujours trouvé une solution à tous les problèmes. C'est ça la magie de ce combat-là. Et voilà, quoi, il faut aussi voir à travers un combat l'expérience humaine, l'enrichissement personnel, intellectuel, hein, j'entends, pas financier, parce que c'est loin d'être le cas. À ce propos, j'ai été attaqué pour propos diffamatoires par la commune de Saint-Éloi-les-Mines, qui a été déboutée, qui devait faire appel, et puis qui finalement a renoncé à faire appel, sachant que ça allait être perdu d'avance. Voilà. Donc là, une fois de plus, j'ai été réhabilité. Je passe en correctionnel, mais acquitté. Donc, je n'ai pas de casier judiciaire. Je pourrai à nouveau briguer un mandat sur ma commune si le dossier recoule n'est pas terminé. Porter haut et fort mes convictions. Alors, même, Dominique, je comprends, même si là, je vais être un élu de la République et ce n'est pas forcément le schéma que tu choisis, mais malheureusement, pour m'opposer à tout ça, il y a la lutte que tu mènes, des fois légale, des fois clandestine. Et je reste persuadé qu'il y a aussi la lutte dans les tribunaux et que la victoire dans tout ça, ce sera la conjugaison de la rue et du juridique.
Non, mais voilà, tu prêches un convaincu. De toute façon, si les personnes sont capables de défiler avec les anarchistes sont aussi capables de défiler avec des gens qui ne sont tous anarchistes.
Ah, ben voilà,
là, après, on essaye de, voilà. De nous mettre dans voilà. Des. Et c'est la force aussi
ça,
de l'État de
nous diviser.
Pour régner, toi.
Oui, bien sûr.
Là, moi, ce qui m'intéresse dans cette lutte-là, mais on y est allé, moi, tu. tu as dû t'en apercevoir, en marchant sur des œufs. Parce que, comme la réputation, c'est un anarchiste et un terroriste, quoi, en gros, hein, c'est les gens qui sont contre tout, qui respectent rien, qui vont vous foutre un bordel monstre, etc., et qui vont faire fuir tous les gens s'ils ils participent à la lutte. Bon, voilà, je caricature.
On vend de la peur. Hein.
C'est à peine ça, voilà. Voilà. Du coup. Mais j'ai déjà fait ça pour d'autres associations ou tout, où on y participe parce qu'on est d'accord avec les combats menés et que ben on prend position, mais on essaye de pas se mettre conseil d'administration, je pensais à Caditaine par exemple, hein, et de façon à ne pas porter le flanc à des magouilles qui nous discréditent et qui voudraient discréditer la lutte, et mais qui réussissent souvent. Donc c'est d'un autre côté, on n'a pas envie de mettre nos positions dans notre poche, mais on sait très bien qu'il y aura une étape. Si la lutte avait été gagnée par des moyens juridiques sans que ça dépasse ce cadre-là, mais nous on aurait été contents, parce que le problème c'est pas de lutter contre un produit polluant, c'est que ce produit polluant ne soit pas fabriqué et que la lutte soit gagnée. Donc on n'est pas nous nés de la dernière pluie, on sait que l'État est derrière, dans une société capitaliste, est derrière le profit et les industriels qui produisent, qui font le profit. Et que donc la lutte, elle sera, on va y puiser avec des amendes, avec des jugements, on va décourager les gens. Oui, il y a une phase ultime après qui sera la confrontation. C'est-à-dire, on va être, dans ce cas-là, là, c'est plus la même chose, et on y va avec nos étiquettes, mais aussi nos drapeaux et notre savoir-faire. C'est-à-dire que mais c'est important parce que dans la lutte, moi je vois quand on y va dans les manifestations, on rencontre souvent des gens qui ne sont pas anarchistes, puis qui disent ah mais on pensait pas que l'anarchie c'était ça. Il y a des gens qui veulent pas rentrer là dans le salon du livre anarchiste parce que c'est anarchiste. Mais quand ils y rentrent et puis qu'ils rencontrent des auteurs, tout à l'heure il y aura Deninck, des livres qu'ils lisent, qu'ils achètent dans les librairies lambda, et ils sont étonnés ou que Tardy soit anarchiste. Mais non, c'est pas vrai, Tardy. On arrive à un moment où s'impliquer dans les luttes c'est nécessaire, et en plus c'est pour nous un travail de soutien d'une lutte, mais en même temps d'affirmation de nos idées. C'est-à-dire que là je te rejoins sur le fait de dire qu'on doit travailler tous ensemble.
Bien sûr.
Et que alors peut-être que là, le temps passe, hein, et peut-être qu'il faudrait voir un peu comment toi tu vois l'avenir. Est-ce que la mobilisation, quand il n'y a plus de sur le terrain de manifestations,
s'il y a un constat,
Et donc est-ce qu'il ne va pas falloir opter pour d'autres modalités, c'est-à-dire là ça va être une lutte qui s'inscrit dans le long terme, et que pour tenir, peut-être qu'il va faire, par exemple, qu'est-ce que je peux dire comme, par exemple, faire une base
occuper
sur
les lieux.
Occuper les lieux, faire une base sur le terrain pour montrer que, même si ça, quand il n'y a pas d'actualité vraiment urgente, on va se former, on va faire organiser des régulations. Régulièrement des colloques pour les alternatives qu'on ne connaît pas, parce que, etc., faire venir des gens qui vont nous éclairer pour approfondir des sujets et faire en sorte que ceux qui étaient encore un peu sur... hésitant, qu'ils puissent franchir le pas.
Alors, s'il y a un constat, c'est que sur une longue durée, comme on vient de vivre là, c'est-à-dire on n'est pas dans l'esprit d'un 100 mètres, on est dans un marathon. Mmh. Et finalement, au fil du temps, les gens qui ont manifesté étaient bienveillants. Il n'y a jamais eu la moindre considération au niveau des services de l'État pour entendre ou pour essayer d'ouvrir un dialogue. Il n'y a eu que du mépris. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'au fil des manifestations, il y a une forme d'exaspération d'avoir été méprisé comme ça. Et j'ai alerté à plusieurs reprises les services de l'État en disant « faites attention parce que là, les gens commencent à être en colère. En colère parce que on nous dit qu'on fuit la dictature. Alors la dictature, c'est peut-être ferme ta gueule, mais là, en l'occurrence, la démocratie, c'est cause toujours. Donc de toute façon, on n'avance pas beaucoup plus. On est toujours dans le non-dialogue. » Donc, effectivement, moi j'ai entendu à plusieurs reprises des gens me dire, nous de toute façon, on ne laissera pas faire, on a joué notre vie. Moi je me bats, enfin j'ai été élu maire, donc jeune élu, c'est une aventure, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, voilà qui vient de nulle part, mais je suis originaire d'un village où on a grandi ensemble, on a créé des amitiés, c'est une communauté aussi, hein, en quelque sorte, et on a compris qu'on arriverait à avancer que si on pouvait reposer les uns sur les autres. Et dans ce combat-là, moi, j'ai plein d'amis d'enfance hein, qui ont eu leur projet de vie, hein, de construire sur la commune. Alors, forcément, ils ont encore là des échéances à payer. Ils vont y mettre 40 ans de labeur, y élever leurs enfants, leur famille, et se disent, nous, demain, si cette usine s'installe, on a tout perdu. Alors là, moi, je suis convaincu d'une chose, et je le suis à titre personnel également, c'est que le jour où on m'aura tout pris, j'aurai plus rien à perdre. Donc, à partir de là, ça sera la guerre totale. Ça sera une question de vie ou de mort. J'ai été l'objet de menaces de mort à l'époque de l'enquête publique et finalement, le coupable a été identifié. Puis on m'a dit, vous comprendrez, monsieur le maire, c'est une personne âgée et il n'a pas de casier judiciaire, donc on va le condamner à 2 journées de stage de citoyenneté. Je dis, bon, très bien. J'étais pas plus affolé que ça. Bon, on devait venir me trancher la gorge comme au moment de l'attentat contre Samuel Paty. Bon, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, c'est un entonnoir. Donc, la lettre anonyme, elle est arrivée avec un timbre à la mairie. Elle n'a pas été déposée chez moi. Bon, déjà là, j'étais pas trop inquiet. Bon, Dominique, t'étais déjà venu chez moi. Tu sais qu'on n'est pas du style à être vite inquiété. Bon, moi, je m'attendais quand même, parce qu'il y a eu des actions sur des élus qu'on peut pas cautionner non plus. Hein. La violence n'est pas toujours, forcément, c'est pas la solution qu'on privilégié au départ. Donc je me suis dit, finalement, ce discours-là, je vais me l'appliquer à moi-même, c'est-à-dire que si demain l'usine arrivait et que je perdais tout, donc je peux, moi aussi, librement laisser parler ma violence, dans la mesure où j'ai pas de casier judiciaire, puisque je viens d'être acquitté. Puis pour ceux qui sont dans l'Assemblée, là, vous regarderez, là, vous voyez, je suis couleur sel et poivre, donc je suis vieux. Donc j'ai aussi les critères, moi, pour en sortir avec un rappel à la loi, on va dire. Voilà, ouais. C'est ça. Mais par contre, voilà, il y a des actions... Il y a des actions à mener, parce que tous les moyens sont déployés. Je me rappelle d'une manifestation en décembre l'année dernière sous une pluie battante. Hein, on était 180 ou 190 vaillants. Hein. Alors comme c'est un combat qui intéresse, c'était relayé par des journalistes au national, des réalisateurs de films et ainsi de suite. Quand j'ai vu les moyens déployés, alors qu'on me dit qu'il n'y a pas de moyens pour la gendarmerie, que les gendarmes se plaignent d'avoir des voitures avec un kilométrage infini, qui font des permanences dans ma mairie parce que dans leurs locaux il fait froid, qu'il n'y a pas de chauffage, je me dis bordel. Enfin, ouais, mais je suis un peu en colère là. Il y avait, on va dire, une quinzaine de véhicules un samedi avec 4 gendarmes par véhicule. Pour faire quoi? Je sais pas, à part pour nous compter, il n'y a pas eu d'exaction, tout s'est passé tranquillement. Donc on se dit là, pour un industriel qui n'est encore pas au début du commencement de la construction de quoi que ce soit, déployer autant de forces de gendarmerie, moi je trouve qu'il y a encore pas mal de moyens, quoi. C'est-à-dire que les moyens, on sait les mettre là où ça arrange. Je suis passé aussi sur la zone hier soir, pas plus tard qu'hier soir, et finalement je me rends compte qu'il y a de l'éclairage. Donc jour et nuit, hein, pour éclairer une friche, donc des lapins et puis des oiseaux, uniquement sur ce fameux terrain-là. Alors qu'un peu plus loin, il y a réellement des industries qui fonctionnent, il y a des transporteurs, parce que je ne suis pas contre l'emploi. J'ai accueilli une entreprise de transport qui a généré 80 emplois sur 2 hectares. Et eux sont dans le noir. Alors là aussi, il faut chercher l'erreur. Mais... La raison que moi j'ignore, mais je cherche de la logique, voilà. Alors je suis assez cartésien, et là franchement j'ai eu du mal à m'endormir hier soir pour chercher une forme de logique dans tout ça.
Bon, alors vous comprenez que c'est un argument supplémentaire pour gagner cette lutte. On veut absolument pas, enfin je pense que tout le monde est d'accord ici, que Arnaud il ait un casier judiciaire comporte des trucs pas sympas, quoi. Voilà. Enfin, on préfère que tu aies un casier judiciaire.
Non, mais ça,
donc
je
on
peux...
va gagner cette lutte. Et si c'est pas pour les enfoirés qui veulent nous empoisonner, ça sera pour toi.
Moi, maintenant, j'ai une devise. Si la violence ne résout rien, je frappe plus fort.
Ouais, mais bon, moi, voilà.
La violence morale, j'entends. Je ne dis pas la violence physique, mais de la violence dans les propos, dans les actions, et puis dans la détermination. Quoi. Il faut une volonté de faire. Et puis, parce que face à nous, on a quand même des gens qui sont en costume, qui sont là censés représenter l'ordre établi, la bien-pensance. Moi, j'ai vu quand même à travers ça des méthodes de voyous. Des méthodes d'intimidation, de conseils avisés pour mon bien, des tentatives de déstabilisation psychologique. Et ça, c'est le genre de truc, en fait. Moi, je suis un peu têtu, je suis comme l'ours. Je suis gentil, mais il ne faut pas venir me manger dans mon pot de miel, quoi.
Ah, encore une éducation judéo-chrétienne de ratée.
Ah, bah écoute...
Normalement, tu devrais tendre l'autre joue.
Ah ouais, non, mais moi, il y a longtemps que j'ai compris que ça c'était pas forcément... Enfin, ça, on me dit de le faire, mais ceux qui me disent de le faire ne sont pas forcément ceux qui le font. Donc, pour reprocher, il faut être irréprochable, on est d'accord. Donc, voilà, face à des gens qui sont sur une sorte de violence administrative ou de violence psychologique, moi, je pense que... Après, on est dans un combat où toute forme de défense, même si c'est la technique de la terre brûlée, on arrive après, tous les coups sont permis. Donc, ayant tout perdu, on ne me prendra pas ce que j'ai plus, puisque c'est l'usine qui va me le prendre. Bon, donc, voilà.
On va garder pessimiste pour des temps meilleurs. Mais je pense que c'est optimiste. Un luxe qu'on ne peut pas se permettre par les temps qui courent. De toute façon, cette lutte, on va la gagner.
Oui.
Hein, donc, tu ne seras pas réduit à des extrémités de violence. Non. Mis à part ça, je pense que la violence, c'est toujours la plus mauvaise des solutions.
C'est l'ultime recours.
Bon, après, y a la différence entre les gens qui attaquent, les gens qui sont agressifs et les gens qui résistent. Je veux dire, on n'a pas forcément le choix des fois de...
Il faut jouer avec les armes de ses adversaires.
Voilà, mais bon, voilà. Bon, des fois, les non-violents intégristes diront que non, qu'il y a d'autres solutions. Donc moi personnellement, je suis pour que on puisse mener les luttes le plus longtemps possible et tant qu'à faire jusqu'au bout, sans qu'il y ait une effusion de sang,
une confrontation physique.
Voilà. Je pense que c'est argument contre argument. Après, il faut pas être enfant de cœur. Le capitalisme, le moteur, c'est le profit. Hein, c'est pas la satisfaction des besoins des gens, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les intérêts des patrons ne sont pas forcément les intérêts des habitants, déjà que c'est même pas c'est pas les intérêts des gens qui bossent pour eux non plus. Donc
c'est quand même un groupe qui suscite beaucoup d'opposition parce qu'on est en contact avec des Américains en Virginie occidentale où Rokul a installé une usine à Jefferson. Donc là il y a pareil, il y a un film documentaire qui est en cours de réalisation. La problématique est la même. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'Europe, l'Europe, c'est vraiment l'exemple concret. Alors bon, je me suis présenté tout à l'heure, vous avez vu mon nom, c'est le bruit d'une fermeture éclair quand elle coince. Il y a une voyelle pour cinq consonnes, donc je suis originaire d'Europe centrale. Et donc ces pays-là, on les a inclus tardivement dans l'Europe. Et même quand m'entretiens avec ma famille, il y en a en Allemagne, il y en a en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, enfin voilà, c'est assez hétéroclite. Mais finalement, quand on discute entre nous, on la veut tous, l'Europe. On veut l'Europe des citoyens. Et ce qu'on nous a présenté quand on s'est opposé, ce que les citoyens ont refusé, c'est l'Europe de la finance. Voilà. Pour eux, c'était la liberté de voyager, que la famille qui était éclatée, qui ne pouvait plus se rencontrer parce qu'il y avait des barrières, c'était très compliqué, qu'on puisse circuler. La problématique, je rends des pommes de terre dans les quartiers difficiles du 93, on m'avait décrit ça, comme tu disais tout à l'heure, divisé pour mieux régner, on m'avait dit attention, c'est des sauvageons, tu vas te faire attaquer, ils vont te voler la caisse et tout ça. Moi, j'ai rencontré que des gens bienveillants. On s'est trompé en rendant la monnaie, des gens ont fait des fois 10 km pour venir nous dire, vous nous avez donné 10 euros de trop. C'est des pères et des mères de famille qui n'aspirent qu'à une chose. C'est au bien-être, à élever leurs enfants dans la dignité et à en faire des gens bien. Personne ne peut se complaire dans la violence au quotidien, dans l'agression, dans tout ça. Donc là, encore une fois, nous, vu sous le prisme de la province et puis, on va dire, des grands médias qui vendent de la peur, le constat sur le terrain, il n'était pas le même. Et l'histoire de l'Europe, c'est la même. C'est-à-dire que tous ici dans l'Assemblée, je suis sûr qu'on la veut, cette Europe, pouvoir aller échanger avec un Portugais, un Grec, un Islandais, Islandais ou un Polonais sans venir dire bah, finalement, toi le grec, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton déficit que l'Europe va pas bien. Alors que nous,
on pourrait peut-être aller un peu plus loin et puis étendre ça à la planète entière.
Ah ben voilà. On va déjà faire l'Europe dans un premier temps, aussi.
Ouais, l'heure tourne et peut-être qu'il y a quelques personnes de cette nombreuse assemblée. Genre, les gens du fond là-bas, s'il vous plaît.
Ceux qui sont restés debout dans le fond là.
Oui, peut-être qu'il y a quelques questions. Voilà, voilà. Il y a un micro. Vas-y.
Oui, je pense que cette intervention montre l'importance que les luttes locales peuvent avoir. Et parce que souvent, les médias s'intéressent aux grandes choses, etc. Enfin, grandes, c'est ce qu'ils disent. Et puis après, on passe à autre chose. Et pour avoir bien suivi, par exemple, les luttes par rapport à les déchets atomiques, il y a eu des luttes pendant des dizaines d'années. Et ce qui était important, c'est que... Enfin, c'est important déjà pour les gens qui luttent, ça a été dit. Parce que ça change quelque chose déjà de lutter collectivement. Mais en plus, ça a permis de résister pendant très très longtemps. Et le mot d'ordre, c'était pas ici ni ailleurs.
Ah, mais exactement.
Et c'est là que ça a élargi. Et justement, vous avez parlé des perturbateurs endocriniens, de l'amiante. C'est toutes ces choses-là qui donnent des maladies aux gens. Soit qui travaille, soit qui habite à côté. Et il y a tout un travail d'information à faire, parce que ce n'est pas quelque chose qui déclare tout de suite, c'est quelque chose qui déclare longtemps. Moi, j'ai connu un copain, son père est mort de l'amiante, alors qu'il était en retraite.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est ça, moi, le constat, c'est que je me rends compte que finalement, pour les gens, tout ce qui est invisible n'existe pas. Et c'est ça qui est dommage. Alors, on va voir la... On a les perturbateurs endocriniens, on a les composés organovolatiles. Bon, les preuves sont accablantes. Hein. C'est des produits qui provoquent des cancers des voies aérodigestives. Mais c'est invisible. C'est comme la radioactivité, c'est comme ces déchets nucléaires. En fait, on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'à l'époque, à Tchernobyl, les liquidateurs, on leur a dit, voilà, vous mettez un bleu en coton, vous vous mettez un masque devant le nez, et puis vous pouvez aller toucher des déchets radioactifs. Bon, ils ont eu 8 jours d'espérance de vie. Mais ce qu'on a du mal à faire comprendre aux gens, c'est... il peut y avoir des nuisances pour sa santé alors que c'est invisible. Voilà, c'est ce message-là qui est difficile à faire passer. Voilà.
Alors, il faut un micro parce que c'est enregistré.
Et au même titre que là, il a fallu qu'on leur délivre un permis provisoire. Donc, pour les gens, le fait de les voir installer une clôture, c'est un élément de communication et puis un peu de terrassement. On disait, bah, ça ne sert plus à rien de se mobiliser. Ils ont un permis provisoire. L'usine va se faire. Alors, en plus, je suis désolé, hein, vous n'allez pas me taper dessus, mais le français est pessimiste. C'est-à-dire que ça y est, c'est commencé, donc on n'y va plus. Mais je dis au contraire, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour pas que ça aille plus loin. Et puis finalement, là, on va organiser une manifestation la semaine prochaine, et puis il y a beaucoup de gens qui connaissent la décision de justice qui disent « Non, mais vous avez gagné en cour d'appel, donc ils n'auront pas le permis, donc ils ne viendront pas. » Ben non, malheureusement, bougez-vous le cul, bougez-vous le derrière, donnez 2 heures de votre temps, parce qu'il n'y a rien de gagné. Comme vous le disiez à juste titre, on est dans un marathon, c'est un combat qui va durer, moi c'est 2020, hein, c'est 4 ans. Moi je me fatigue aussi, hein, je prends 2 ans tous les ans, Et voilà, c'est fatigant d'être en lutte. Mais il faut qu'on tienne dans la durée, il faut s'économiser, et il faut rester mobilisé, il faut montrer qu'on occupe toujours le terrain. Voilà, ils ont encore, eux, des bâtiments que je devrais faire évacuer, parce que tellement arrogants, ils étaient persuadés que la cour d'appel, c'était une formalité, une fioriture. Bing, on gagne. Donc ils ont fait une clôture qui aujourd'hui est illégale, ils ont installé leur bâtiment à grands coups de communication en disant, ça y est, on occupe la place, et bien là, il va falloir leur dire du vent, vous avez joué, vous avez perdu, vous devez partir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour ça, pour que je sois légitime, ben il faut que la semaine prochaine on soit nombreux en disant voilà, nous on n'est pas démotivés, on est encore là et on doit y aller, on fait le taf, on est des vaillants, on se compte et on est présent. Voilà, c'est ça l'esprit. Et après je leur ferai démonter, je serai légitime.
Oui, je disais, puisque c'est invisible, c'est de la pollution propre.
C'est ça. Ouais. Ah ben, alors attendez, je vais rebondir parce que on nous dit principalement de cette cheminée là il va sortir de la vapeur d'eau. Voilà, je cherchais le mot. Bon, il y a 820 tonnes quand même annuelles. Ouais. Donc il y a 365 jours, c'est plus de 2 tonnes par jour. Bon, moi, ok. Alors, je disais tout à l'heure, je suis un paysan, je suis pas allé beaucoup à l'école, mais j'ai fait un petit peu de chimie quand même, parce que j'ai fait un bac de maths. Quand on vient vous dire qu'il va sortir de la vapeur d'eau, la molécule d'une vapeur d'eau, c'est H2O. On retire l'atome d'hydrogène. on est à mi-chemin à nous dire que ces cheminées-là vont sortir de l'oxygène. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Et après, on vous parle, mais non, mais la pollution, elle va, il y a dispersion. Mais en aucun cas, dispersion veut dire disparition. Et ils n'ont pas le pouvoir d'envoyer ça dans la stratosphère. Donc ça va bien demeurer là. Voilà, tout ça, c'est essayer de manipuler, c'est de la manipulation de masse. Hein. Alors là, je pense que toi, Dominique, il y a des exemples comme ça, t'en as à l'appel, de la manipulation intellectuelle pour faire avaler n'importe quel type de couleur. Le problème, c'est qu'en fait, on a été à l'école. On a appris, c'était gratuit, on en a profité, et on est tous pas cons. On est peut-être la dernière génération qui avons bénéficié là, d'un enseignement, on va dire, objectif. C'est compliqué. Enfin, alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait, on met nos connaissances en application. On a écouté ce qu'on nous a dit, et on ne peut plus nous faire avaler n'importe quoi par rapport à des gens, on va dire, il y a... Et ce n'est pas anodin qu'ils soient installés ici. Où est-ce qu'ils s'installent ? Dans le Massif central où il y avait des mines, et à Soissons qui était une ville industrielle. Parce qu'on a une résilience par rapport à la population. Il y a un taux d'illettrisme quand même assez conséquent dans l'Aisne. Donc on va s'installer là où les gens, d'une, ne sont pas habitués à lutter. Hein, on ne va pas dans le sud-ouest, on ne va pas dans les zones de montagne. Donc, enfin, moins, je fais du général, hein, je ne fais pas du cas par cas. Donc, on vient là, ben on va s'installer chez les ignares, on va leur faire avaler n'importe quoi. Puis, de toute façon, ils ont déjà eu de la pollution. Habitués à la misère, ils n'y pensent plus. Voilà, voilà le dessin cynique de ces gens-là. Et rien n'est laissé au hasard. Et ben moi, je suis désolé. Moi, j'ai un beau village. On est à une heure de Paris. On peut créer des emplois. On parlait tout à l'heure des matériaux alternatifs. On a notamment, par exemple, des panneaux à base de bois. Les forêts, moi, je suis venu en venant là. Les forêts privées, elles sont dans un état déplorable. On a encore au sol, je pense, des arbres de la tempête de 99. C'est du renouvelable. C'est du stock de carbone. Le bois, c'est du stock de carbone. Donc, si on le met dans de l'isolation, eh ben, en fait, on va stocker du carbone. Et à la place, il va repousser un autre arbre. Donc, les solutions, elles existent. Les emplois qu'on va pouvoir développer sont nombreux. Donc, allez, on fonce. On y croit. Soyons ambitieux.
Alors, une parole au fond, peut-être, Thomas ?
Oui. Moi, je trouve que c'est plutôt formidable, cette lutte, dans le sens où ça fait se croiser des personnes qui, sinon, se croiseraient jamais, quoi.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Enfin, j'étais pas là au tout début, désolé.
Ouais.
Et la vision que j'en ai, c'est vraiment qu'il y a tout un panel, du coup, d'idées qui se confrontent, qui sont pas forcément, qui sont parfois complètement en opposition, mais qui finalement là, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont créé un point de tension qui rassemble tout le monde et du coup tout le monde leur tombe dessus et en fait ils recréent de la solidarité finalement. Donc moi je les remercie d'un côté, je les remercie grandement parce que on serait jamais
d'avoir
peut-être
renouer le dialogue entre des gens qui ne se parlaient plus.
On serait peut-être jamais parlé, voilà, ça fédère. On voit des gens, on va dire en noir, qui sont à côté d'élus par exemple. C'est des choses qui habituellement on n'a pas coutume de les voir, quoi. Et du coup, en fait, ils dynamisent le territoire, mais d'une autre façon. Ah, voilà. C'était peut-être pas attendu, mais c'est vrai qu'ils dynamisent le territoire. Et franchement, on peut les en remercier. Après, je pense qu'une fois qu'ils ont réussi à faire ça, ils peuvent repartir.
Mais, voilà. Mais j'aime bien ta vision des choses, parce que je suis un peu comme toi. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein.
Voilà. Bon, alors, moi, je suis désolé, mais nous avons un programme. Et qui se termine normalement à 45, il est 44. Donc, on va.
Est-ce qu'il y a une dernière question?
Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis, voilà.
Une question. Voilà.
Non, attends, il faut... Oui.
Allez-y.
Sinon, on a la réponse, on n'a pas la question.
Allez, dites-moi, est-ce qu'à Saint-Éloi-les-Mines...
Il y a eu beaucoup de morts par cette pollution.
Alors, je réponds à la question. En fait, il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques sur les cancers industriels. Bon, par contre, moi, les habitants m'ont dit, monsieur le maire, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous vous rendez dans le cimetière de Saint-Éloi, vous regardez les dates de naissance et les dates de décès, et vous verrez que l'espérance de vie est quand même moins élevée que la moyenne nationale. Alors, tout ça, c'est un petit peu faussé. Alors, voilà, je fais pas de langue de bois. Hein. Je dis vraiment, je suis factuel, pas de parti pris. Ils ont eu, eux aussi, avant l'arrivée de Rocoul, une usine d'amiante. Donc, si vous voulez, les causes étant multiples, oui. Ce serait malhonnête et vicieux de ma part, et peut-être même diffamatoire, de dire que la baisse de l'espérance de vie est liée uniquement à Rocoul. Mais, effectivement, Alors en fait, à Saint-Éloi-les-Mines, vous avez les gens qui travaillent qui disent que c'est le paradis sur Terre, et les gens qui n'y travaillent pas qui vous disent c'est l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que quand il fait 40 degrés, on a des photos nous édifiantes hein, d'opposants. Oui. En fait, si vous voulez, quand la pression atmosphérique est basse, donc la fumée est horizontale, donc elle stagne dans cette cuvette-là.
Parce que le village est vraiment près de l'usine Recoule.
L'usine est en centre-ville. Ah, hein. Vous connaissez?
Bah oui, je connais assez.
Voilà. Hein. Voilà.
Avant, quand il y avait les mines, il y avait plus de 6000 personnes. Maintenant, ils doivent être à 3000 et quelques.
Chez Recoule?
Non, Saint-Éloi.
Ah, Saint-Éloi, la population était divisée par deux. Alors, moi, ça m'a valu justement un procès en correctionnel pour diffamation, parce que j'ai cité l'INSEE. Effectivement, oui. Avant l'arrivée de Recoule, il y avait 7000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 3600. Ah, oui. Donc, ça n'a pas amené la prospérité. Et je ne sais plus donc, sur quoi je voulais rebondir. Ouais, en fait... les commerces sont fermés et puis bon, il y a des dépôts blancs, des dépôts jaunâtres, les tickets, les jetons pour aller laver les voitures sont en libre service à l'accueil. Il y a toujours quelqu'un avec un balai dans la cour.
Ah, oui.
Moi, je suis allé là-bas. Je sais pas si je peux reprendre cette image-là. Quand on avait fait une visite guidée là-bas sur un week-end, j'ai eu l'impression de visiter Moscou dans les années 80. Hein, si vous voulez, on avait deux encadrants par participant. Non, mais je suis revenu de là-bas fatigué.
Logé à 30 km.
Comment ?
Logé à 30 km.
Ah oui, voilà. Et alors, si vous voulez, il y a une technique d'industriel. Pour éviter les mouvements sociaux, vous faites quoi ? Vous allez recruter 50 agents à 30 km, 20 agents à 10 km dans une autre ville, de façon à ce que les gens ne se connaissent pas les uns les autres. Donc, à partir de là, comme ils n'échangent pas entre eux, il y a peu de chances pour qu'il y ait un mouvement social. Oui. Voilà. Divisé pour mieux régner, encore là. Mmh. Voilà. C'est ce que moi, j'ai vu, j'y suis allé. Hein, ça.
Oui.
Et je vous dis, de mes propos, je peux les assumer puisque j'en ai été acquitté en correctionnel.
Elle est ouverte depuis quelle
1980.
Année ? 1980. Ah oui, ça fait déjà 44 ans.
Il y avait 5 lignes, je crois, de mémoire. Il devait y en avoir 3 au charbon. Et puis deux électriques. Alors on a un politique soissonné qui dit ça va aller, nous ce sera pas des fours à la coque. Alors la coque, je pense qu'il l'avait sniffé, c'était au coq, c'est le coq, c'est le charbon. Voilà, ouais, c'est ça. Mais ça c'était une petite remarque amusée, oui, histoire de détendre l'atmosphère.
Voilà,
puis ça fait du bien un dimanche matin.
Ouais, et puis pour clore une rencontre, il vaut mieux
terminer sur une bonne note.
Voilà, une bonne note. Et puis en tout cas, mon Arnaud, on te remercie d'avoir accepté de venir participer à une émission sur Radio Libertaire.
Mais donc, c'était un bonheur.
C'est retransmis sur la Terre entière, puisque bon, on a le net maintenant qui nous permet de ne plus nous cantonner uniquement sur Paris ou la région parisienne. Voilà,
c'est un bonheur, c'est un terme bonheur pour
la
moi
technique,
aussi.
Voilà. Et bon, donc on va gagner. Et en attendant, on se prépare pour occuper le terrain et faire de l'éducation populaire, quoi.
Voilà, pour l'instant, on va occuper le terrain médiatique et puis après, on va occuper le terrain. Occuper le terrain.
Sinon, on avait une déchetterie.
Oui.
Et il y a une décharge. Et il y a eu énormément de gens qui ont eu des cancers et tout ça.
Ah, mais bien sûr. Alors, le problème, c'est que le meilleur... Le meilleur moyen de ne pas trouver, c'est de ne pas chercher. Hein, on est d'accord ? Voilà, c'est ça.
En tout cas, on se dit tous
à samedi.
Je voulais terminer sur ça. Il faut qu'on soit
nombreux. Venez nombreux.
Il faut qu'on soit nombreux samedi. Voilà.
Voilà.
Voilà, alors merci.
Un grand merci à vous.
On va passer
merci pour cette tribune.
Une intermède. Et avant de se retrouver pour le prochain débat qui sera sur le conflit israélo-palestinien avec Jean-Louis Mohand-Paul. Alors, on verra ce qu'on est capable de débattre sur un sujet aussi chaud que celui-là. Merci Arnaud.
Merci à Dominique. Merci pour cette tribune.